Chapitre 20, le cauchemar du bon Jaffray. La pendule de Jaffray était toujours exacte et régulière, comme le cours même du soleil. Il avait des vertus, cela est certain. Vivre à l'heure est une vertu sociale. Une statistique a établi que sur 100 faillis, il y avait en moyenne 90 de ces malheureux et intolérables mortels qui arrivent au rendez-vous une heure après le moment fixé. De ces tortues mal organisées, en un mot, qui manquent les coches, les trains, les occasions, qui manquent tout. J'ai eu un camarade, moi, qui vous parle, un honnête jeune homme s'il en fut. Vers l'âge mûr, il devint sujet à caution. Son horloge retardait, ses billets souffraient. Aux dernières et lamentables nouvelles, sa montre arrêtée dort dans le gousset d'un banqueroutier. Qu'aurait-il fallu, en définitive, pour faire du bon Jaffray la perle des galants hommes? Peu de choses, ce que la cuisinière bourgeoise, traitant un sujet plus grave, exige de ceux qui veulent faire un civet de lièvre. La pendule de Jaffray, aiguë et argentine, répondait coup pour coup à la grosse voix du clocher de Sorbonne. La lampe baissait et le feu allait s'éteignant, jetant à ce magique coffre-fort qui faisait face à la cheminée des lueurs incertaines. Les vibrations de la pendule duraient encore quand un murmure confus et de nature indéfinissable se glissa parmi le silence. Vous eussiez dit un bourdonnement, produit par quantité de ces frôlements secs et sourds que rendent les bêtes mortes, clouées à la porte des logis campagnards, quand le vent nocturne tourmente leurs plumes hérissées. Cela venait de la chambre où le bon Jaffray avait mis ses chers oiseaux tous ensemble pour cette nuit. L'entrée de cette chambre était sur le carré. Bientôt les oiseaux du bon Jaffray se prirent à volter et à crier, pris d'une mystérieuse panique. Le moindre vagissement d'enfant arrive aux oreilles d'une tendre mère. Jaffray, endormi ou éveillé, entendait toujours ces oiseaux, et dans le cours de sa carrière, il avait sauvé nombre de canaris menacés d'apoplexie foudroyante. Il entendit, mais ces bruits se rapportaient si bien à son rêve. Il continua de dormir. Cependant, la porte de la chambre aux oiseaux s'ouvrit doucement, et une tête de hibou se montra sur le seuil à hauteur d'homme. Le hibou promena son regard morne tout autour du salon et dit « Il ronfle au coin du feu, la racaille !» C'était fort pour un hibou. Le bruit des plumes sèches redoubla. En même temps, une nuée de petits oiseaux entra dans le salon par-dessus la tête du hibou et volta autour des lambris. Jaffray, du fond de son sommeil, avait une conscience assez nette de cette invasion. Il sentit même trois ou quatre pierrots insolents qui se perchaient sur son bonnet de coton, mais cela se confondait avec son rêve. Le hibou franchit le seuil à son tour. Vous avez sans doute entendu parler de la fameuse file indienne, manœuvre élémentaire des peaux-rouges quand ils marchent sur les sentiers de la guerre. Ce fut ainsi pour l'armée des fantastiques volatiles qui entra dans le salon de Jaffray. Après le hibou venait un vautour, après le vautour un coq de gigantesque taille qui secouait orgueilleusement sa crête sanglante, après le coq un dindon qui tenait dans ses bras un tendre dindonneau. Puis des corbeaux, des pies, des poules, des pigeons à la gorge étoffée, des perroquets, des cigognes, des oies, une autruche, un paon, deux canards, une chauve-souris et une hirondelle, symbole de l'exilé regrettant le pays qu'il a vu naître. Peut-être y en avait-il d'autres encore. Toutes ces bêtes avaient uniformément un plumage fané et même rongé au mythe en de larges places. Elle venait d'un pays où les oiseaux sont plus grands que chez nous, et moins bien tenus. Le vautour, surtout, terrible animal, avait son cuir nu en maintes places, et son cuir était en calico jaune. Elles s'introduisirent, ces bêtes, gardant avec ordre la file indienne, une par une, dans un profond silence. Elles marchaient sans produire aucun bruit. Le regard perçant d'un naturaliste n'aurait pas tardé à découvrir qu'elles étaient toutes munies de chaussons de lisière. Les premières entrées firent le tour du salon, et le hibou, en passant, donna sa bénédiction à la caisse historique. Il gagna le coin de la cheminée en dessinant un grand circuit et se trouva placé juste en face de Jaffré. La procession qui le suivait s'arrêta en même temps que lui. Un large cercle, dont aucune expression ne saurait peindre la burlesque immobilité, entoura le foyer. Le vautour semblait commander en chef, il tenait le milieu. Fixe, ordonna-t-il, sans ouvrir son bec sévère. Battez de l'aile avec précaution pour témoigner que vous avez remporté la victoire. Ces mots n'étaient qu'un murmure, et cependant le bon Jaffré gronda dans son sommeil. Il n'est pas à son aise, chuchota le grand coq. Et le hibou ajouta, en tirant un long bras de dessous ses plumes, pour mettre en lieu de sûreté le pistolet coup de poing qui était sur la tablette de la cheminée. Il y a deux faisans dorés, six perdrix, des cailles et tout un tremblement de mitraille d'oisillon. On peut faire une soignée gibelotte à la cuisine. Derrière les rangs, un seul volatile se tenait modestement dans l'ombre. C'était un dindon muni de son petit. Il avait pris cette place de lui-même et comme par vocation. Les dindons passent cependant pour orgueilleux, et cela se conçoit puisqu'ils sont stupides. Notre dindon berçait son dindonneau et coulait à son oreille. Tiens ton bec, saladin! De trempin intolérable, t'es sevré, sois-en digne. Tu m'exposerais à ce que je t'étouffe si tu poussais dans la circonstance tes hurlements que tu en as l'habitude. Écoute plutôt et regarde. Ah, je sais bien que tu es jeune, mais ça va être cocasse et je vais te donner des petites bêtes à tuer pour t'amuser. Il n'était pas cruel, pourtant, je l'affirme sous serment, ce dindon, modèle des mers. Le vautour appela l'hirondelle. Cascadin, dit-il, cherche la cuisine, allume un bon feu. Si tu rencontres des domestiques, charge-les de chaînes. Tu reviendras pour la chasse. Et fuis, car tu es comme le temps, blanc-bec, tu as des ailes. L'hirondelle, suivie d'une oie et d'un pigeon, sortit à la recherche des cuisines. Alors le vautour en chef prit entre l'index et le pouce l'extrémité de son redoutable bec et se releva vivement. Sa tête était à charnière, elle s'ouvrit comme une boîte à couteaux et découvrit le crâne belliqueux de monsieur Gondrequin, nommé militaire, et qui commanda « Ouvrez-vous, à cette fin de respirer l'air pur, car il fait puant dans ces cadavres. » Tous les oiseaux bâillèrent aussitôt si énergiquement que leurs becs renversés pendirent sur leur nuque. On put voir, d'un seul coup d'œil à ce moment, la composition de cet étrange sénat. Monsieur Baruc, dit Rudeau-Poil, était dans la peau du grand coq. Similor, toujours avantageux et sûr de lui-même, habitait le hibou et lutinait d'une façon répréhensible Mademoiselle Vacherie, sa voisine, non moins hideuse en chauve-souris qu'en femme. Échalot, nos cœurs l'ont reconnu, était le dindon et n'avait pas voulu se séparer de son petit, même dans cette occasion dangereuse. Le pitre avait un costume de corbeau, l'albinos se gobergeait dans le vaste corps de l'autruche, l'équilibriste gigotait à l'intérieur de la cigogne, les autres oiseaux, tout en fil de fer, carton et crin, contenaient les âmes des caporaux et des rapins de l'atelier Cœur d'Acier. C'était l'entreprise Vacherie, riche entre toutes les directions foraines, qui avait fourni le matériel. Les indications étaient dues à Similor, qui avait trempé dans l'expédition de la rue Cassette. L'auteur du livret était monsieur Baruc. Toutes ces figures se regardèrent avec un sérieux assombri jusqu'au lugubre et qui eût soulevé au parterre de certains théâtres un rire épileptique. Ils appartenaient tous, les pauvres diables, à ce monde enfantin qui grouille dans les profonds dessous de l'art, qui n'a pas d'âge et qui reste espiègle même quand il prend la barbe grise. Monde joyeux, en définitive, insouciant, pas méchant, mais taquin et cruel aux heures de la mystification. Échalot ouvrit aussi le crâne de Saladin, son dindonneau. Ce fut pour l'embrasser avec passion et lui dire « Il n'y en a pas beaucoup qu'à commencer si jeune que toi à porter un costume de caractère. Ah, t'es mignon comme un petit loup là-dedans, amour. Ah, hurle pas, ça troublerait la cérémonie. Regarde plutôt, sont-ils cocasses? V'là papa. Ah, mais au lieu de te prodiguer ses caresses, il se livre à la fougue de ses passions. Ah, du haut du ciel, si ta mère te contemple, mioche, ah, hurle pas! Elle doit regretter que c'est pas moi-même avec qui elle a conçu son orphelin. Monsieur Baruch, appela Gondrequin d'une voix creuse. Présent, monsieur militaire, répondit Rudeau-Poil. Qu'est-ce qui s'ensuit? Je manque de mémoire. Soufflez, s'il vous plaît. Les plumes, dit Baruch. Allez-y. Gondrequin militaire sourit. Ah, j'y suis, monsieur Baruch, dit-il. Garde à vous. Je m'amuse. Arrachez donc chacun une plume de vos ailes et chatouillez l'Iscariote modérément. Ensemble. Et houp! Avec la régularité d'un peloton qui fait l'exercice, chacun se prit une plume à soi-même. Attention, Saladin, dit Échalot, grâce à moi, t'es sevré. Tu peux comprendre déjà, dès à présent, le truc qu'il faut toujours que le crime soit commis pour que la vertu, elle puisse avoir également sa juste récompense. Saladin était ici la seule personne qui ne s'amusait pas de tout cœur. Il avait l'air d'un diable dans un bénitier. Il faisait, pour hurler, des efforts désespérés, mais Échalot avait une manière de remplir son bec avec le poing qui obtenait le silence. Le cercle, cependant, s'était rétréci autour du brave Jaffré, qui se prit à frétiller, semblable à un poisson dans la poêle, parce que l'extrémité de toutes les plumes cherchait et trouvait, pour les chatouiller, les parties les plus sensibles de son corps. Le dessous du nez, les coins de la bouche, le derrière des oreilles, le creux des mains, et jusqu'à cette place bien connue des gens très gais qui est entre le jarret et le mollet. Sans doute que tout cela rentrait dans son rêve, car le sommeil chez lui s'obstinait malgré cette torture, et il geignait misérablement sans s'éveiller. Allume! Cria Rudeau-Poil, sa mort! Le temps fuit, ajouta militaire, cette scène a des longueurs. Qu'est-ce qui prend du tabac? Si Milord avait son cornet, il ne se refusait aucun luxe. Le cornet fut posé sous les narines du bon Jaffré, et que son cauchemar oppressait et qui respirait comme un soufflet de forge. Il s'éveilla en un éternuement qui menaça de le mettre en pièces. Fixe! Commanda Gondrequin militaire. Tous les crânes se refermèrent en produisant un seul bruit, comme si 3 douzaines de canettes à bière eussent laissé retomber ensemble leur couvercle d'étain. Et le cercle des oiseaux, immobile, rangé dans un ordre admirable, prononça d'une seule voix, lente, lugubre et profonde, « Dieu vous bénisse, bon Jaffré! »« Hurle pas, Saladin !» murmura Échalot, qui avait des larmes plein les yeux. « Faut que tu sois un Bécasseau pour pas crever de rire !» Jaffré soulevait ses paupières pesantes. Son regard effaré voyagea autour de lui. C'était bien son cauchemar, mais si horriblement exagéré qu'il voulut pousser un cri de défense. Ce fut un éternuement qui vint. Tous les oiseaux saluèrent avec gravité. Dieu vous bénisse, bon Jaffré, répéta Gondrequin militaire d'une voix sépulcrale. Et le cercle, comme un écho sinistre, Bon Jaffré, Dieu te bénisse. Le feu est allumé! Cria le clerc ténor de Cascadin. Envoyez la volaille! Jaffré se frotta les yeux avec désespoir. À un signe du vautour, le cercle des oiseaux se mit à chanter sur une mesure paresseuse et mélancolique. C'est Jaffré qui est pincé, pincé pour ses péchés. Pour ses péchés, Jaffré, va t'être guillotiné, lari fla fla fla, lari fla fla fla, lari fla, etc. Après ce refrain, le coq chanta, le corbeau croassa, le pigeon roucoula, la poule gloussa, le vautour cria, la chauve-souris glapit et le hibou hua. En même temps, Saladin, échappant un instant à la tendre tyrannie d'Échalot, poussa un vagissement inhumain. Jaffré, galvanisé par une terreur sans nom, se dressa sur ses jambes chancelantes, appuyé qu'il était d'une main au marbre de la cheminée. Garde à vous! Ordonna un militaire. On demande de la volaille. Je déclare la chasse ouverte sans port d'armes. Et houp! Rompez les rangs! Il y eut un instant d'effrayante confusion. Les oiseaux, les vrais oiseaux, égorgés, rendaient des râles lamentables. On les poursuivait partout. Les deux faisans dorés vinrent se réfugier jusque dans le giron de leur malheureux bienfaiteur, où ils furent lâchement assassinés. Essaie d'étrangler un canari, Bibi, disait Échalot à son élève. Il faut jamais être méchant avec les bêtes, mais c'est le fricot. T'es sevré, t'en mangeras. Le meurtre des deux faisans rejeta Jaffré, frappé d'horreur, sur son siège. « Ce n'est pas un rêve, » balbutia-t-il. On dit aussi dans ces cas-là, lui glissa M. Baruc, entre deux cocoricots, « Dieu, que vois-je ? Ou bien, au ciel, en croirais-je mes yeux ? On va vous éveiller tout à l'heure, dépeceur d'atelier. » « La chasse est fermée, » cria Gondrequin. « À la broche, marmiton. Les autres, fixe. Prenez des pauses, s'il vous plaît, et tirez un œil au bon monsieur Jaffré pendant que le rôti s'élabore. » Jaffré aux abois referma ses yeux et croisa ses bras sur son étroite poitrine. Il était bien éveillé, il ne croyait plus à un rêve. Mais que signifiait cette invraisemblable et menaçante vision? Dans les campagnes, les voleurs se mettent une cravate sur la figure. Ce devait être des voleurs, peut-être des assassins. Mais alors pourquoi cette mise en scène qui faisait du bruit, quoi qu'on en eût? Les assassins et les voleurs à Paris, comme en province, craignent le bruit. Tirez l'œil, mademoiselle Vacherie, faites vos grâces et montrez vos talents. Allons, six milord, du jarret, vous en avez tous les brevets. Hardi, l'albinos, un autre chat, rue d'Opoil, et loup, flambé. Ainsi parlait le vautour, dont la tête triste et cruelle était violemment secouée par une danse épileptique. Le balai, en effet, le balai de l'entreprise Vacherie, allait à toute vapeur. Le hibou et la chauve-souris faisaient merveille. Le coq bondissait sur ses ergots, les pies piétinaient, la cigogne et l'autruche allongeaient des pas prodigieux, tandis que les pigeons enflaient leur cou autour du paon, étalant sa queue extravagante. « Tu ne ris pas, sans cœur, » disait Échalot à Saladin, « toi qui es sevré. Regarde, papa, quel homme, s'il n'avait pas autant de défauts que d'adresse. C'est avec cette glissade-là, tiens, qu'il avait subtilisé le cœur de ta malheureuse mère. »« Stop !» cria Militaire, « j'ai soif. » Les oiseaux s'arrêtèrent soudain. Gondrequin devait avoir étudié la marche des vautours. Il s'approcha de Jaffré et lui dit avec respect, « Si mon seigneur est satisfait de ses esclaves, il leur enseignera la route à suivre pour descendre à la cave où est le vin. » Mais la pie arrivait déjà avec un énorme plateau chargé de bouteilles. Jaffré eut la larme à l'œil. Il n'avait pas pleuré pour ses oiseaux. « Contre la pépille, mes frères, » dit Gondrequin en débouchant un premier flacon, « à la santé de Monsieur Cœur, comme toujours. » « À la santé de Monsieur Cœur !» répondit un ensemble bien nourri. Jaffré trembla jusque dans la moelle de ses os. « Il va bien le rôti, » annonça Cascadin, « va bien la gibelotte. » Et Similor, trinquant avec celle qui enflammait son cœur volage, chanta « Toi qui es de la volupté, quoi le délire d'un jeune homme qui se croyait blasé dessus le sentiment pour avoir remporté trop de victoires contre le sexe le plus piquant de la nature, pour t'exprimer clairement comme quoi l'on t'idolâtre, faudrait la langue des dieux, de la fable et de Voltaire. Si tu me trompais, j'en casserais la vaisselle. Ah, veux-tu ma main, ma fortune et mon nom? Je m'en fiche, je me sers avec toi dans un lien éternel. » Échalot parlait bien différemment. « Une goutte de pur, » disait-il à Saladin, « t'es sevré, Antoine. »«
Monsieur Baruc, » appela Gondrequin.
« Présent ?»« C'est l'instant, c'est le moment. J'aurais pu faire le discours, mais je vous l'ai confié, par bienveillance. Dites à l'Iscariote comme quoi elle est enfuie, ayant des ailes, et qu'il aurait tort de faire le méchant devant la force majeure de la nécessité. »
Baruc sortit des rangs aussitôt et vint se planter devant Jaffré, qui recula instinctivement.
« Pas peur, dit-il. C'est si vous n'êtes pas gentil qu'on va vous pendre à la place du lustre. Attention, je vais vous expliquer la chose en deux mots.
on aurait pu venir tout uniment, vous empoigner par la peau du cou, et vous dire « Ouvre ta caisse et lâche tes papiers !» Mais on a préféré se revenger un peu et s'amuser dans une farce de longueur dont vous êtes le digne plastron pour vous prouver qu'il y a une providence au-dessus des humains et que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse au milieu des petitesses de votre existence ratatinée.
Écoute ça, chinois, hurle pas, murmura Échalot, qui retenait son souffle pour ne point perdre une seule de ses éloquentes paroles. « T'es sevré !»
Par conséquence, reprit Baruch, dont la voix devenait aigre et coupante, on est venu, le sarcasme à la bouche, pour se bafouer de vous, dans l'œil. Là, ce qui s'appelle est sans danger, car vous avez volé des papiers, quant auxquels il y a une plainte en justice de Monsieur Malvois, et, par conséquence,
« Tu l'as déjà dit, hé, là-bas !» l'interrompit militaire, jaloux de sa faconde.
« En conclusion, alors, se reprit Monsieur Baruch, ça m'est égal. Je voulais dire que la justice ayant l'œil dessus, l'animal ne peut souffler mot. Ah, mais, eh, bienheureux encore qu'on ne le flanque pas dans les fers. Ce qui découle de la chose, que ce n'est pas le métier d'un artiste de dénoncer un coquin, et... pour preuve qu'on n'a pas peur ni envie de se cacher de vous, abat les masques tout le monde. » Les becs aussitôt s'ouvrirent tout grands, découvrant de nouveau les visages. « Vous voyez, poursuivit Baruch, par conséquence, non, en foi de quoi, avant le festin qu'on va s'y inviter sous vos propres yeux, pour vous apprendre à marchander des maisons où il y a des ateliers et à demander des 3 millions de papiers timbrés à Monsieur Coeur, qui vous fait bien ses compliments, vous savez, vous allez partir du pied gauche et mettre la clé dans cette serrure-là. Sinon, regardez-moi l'habit noir, il fait jour, pas vrai, cette nuit, je ne vous en dis pas davantage. » Monsieur Baruch, à ces derniers mots, mit ses petits yeux dans les yeux de l'ami des oiseaux. Il vous avait une certaine figure maigre et coupante qui n'annonçait rien de bon. Jaffray n'essaya même pas de discuter. « Je m'en lave les mains, murmura-t-il en quittant son siège. Je suis un homme paisible, d'une santé délicate et incapable de résister à la force. Un habit noir, moi, grand Dieu! Mes chers voisins, nous voici en temps de carnaval, et je suppose que vous avez soupé trop abondamment, puisque vous ne savez plus s'il est jour ou s'il est nuit. Je proteste contre vos violences. » « Halte !» l'interrompit Gondrequin. « En voilà assez. À ta serrure, le temps fuit. Tu ne devineras jamais pourquoi. C'est qu'il a des ailes. Travaille !» Jaffray fit en effet virer les boutons du coffre-fort afin d'écrire les mots de la combinaison, après quoi il prit la clé dans sa poche. Tournant ainsi le dos à ses persécuteurs, il n'était pas sans craindre quelques mauvais coups par derrière. Aussi se hâtait-il du mieux qu'il pouvait, disant « Je ne suis qu'un simple dépositaire, le dépositaire de Monsieur le comte du Bréhu de Clair, et jamais je n'aurais pensé... » Un cri d'épouvante coupa sa phrase, un cri d'épouvante et d'angoisse. Il s'était hâté si bien qu'il avait oublié de mettre le ressort de la défense. Au moment même où sa caisse s'ouvrait, son bras se trouva pris dans un étau. Oh, ce fut un coup de théâtre, non point du genre dramatique, mais de ceux qui amènent Paris 100 fois de suite dans ces pâturages émaillés de sottises qu'on appelle des féeries. Il n'était pas ici un seul oiseau qui n'eût ouï parler des merveilles de la caisse Lecoq. Ces merveilles se racontent. On y croit un peu, mais pas tout à fait. Il faut les voir. On les voyait. Bravo! Le malheureux Jaffray demandait grâce, mais personne ne l'écoutait. Il y eut une acclamation de sauvage allégresse. Le truc avait un énorme succès. Et puis tout le monde se mit à parler avec émotion, avec fièvre, comme font les antiquaires dans une fouille où l'on a découvert un vieux pot. Et Similor tressa un entrechat à 8 et vola un baiser à Mademoiselle Vacherie. Monsieur Baruch battit des mains. Gondrequin déclara que c'était un tire-l'œil de longueur comme on n'en voyait pas deux dans sa vie. Échalot poussait en avant le mièvre minois de Saladin et lui disait « Regarde, ma fille, regarde, perds pas l'occasion. Si tu manquais ça, tu le regretterais plus tard, parce que c'est farce. Ah, si ta mère était là, pauvre défunte !» Et chacun racontait à son voisin, qui n'écoutait pas, les gloires de ce coffre-fort légendaire. L'histoire du brassard, les malheurs d'André et de la belle Ménotte, les millions de la maison Schwarz, les méprises de la justice, et comme quoi ce même brassard ciselé servit de piège pour prendre Monsieur Lecoq, le grand Monsieur Lecoq, tout l'honnête amitié qui eut enfin le coup tranché par cette porte brillante et coupante comme un triangle de guillotine. Cette porte-là, entendez-vous, que chacun pouvait toucher du doigt. Ce qu'un témoin pareil, muet et menaçant qu'il est, ajoute au ressouvenir d'une tragédie, ne se peut pas dire. C'est l'étrange puissance des reliques. « Avance ta petite menotte, Saladin, touche ça, aie pas peur. Ah, tu pourras dire plus tard, j'ai eu la chance de toucher la chose dans ma jeunesse. » Et jusqu'au tombeau, je témoignerai, « Ah, c'est sûr, l'enfant l'a vu, peu après l'époque de son sevrage. » Jaffray ne criait plus. L'infortuné Jaffray. Une agonie morale remplaçait pour lui la douleur physique, causée par l'étreinte un peu trop serrée de la griffe d'acier. Il entendait parler autour de lui de cette porte guillotine dont l'arête affilée envoyait à ses yeux un reflet de rasoir. Et il se souvenait de ce terrible Larifla que naguère on chantait, c'est Jaffray qui est pincé, pincé pour ses péchés, pour ses péchés Jaffray va être guillotiné. Épouvantable fin pour un homme paisible. Il pensa peut-être ce que dit une autre chanson, il est un dieu. Heureusement la porte s'ouvrit, donnant passage à Cascadin et à ses deux aides, dont chacun portait à deux mains un énorme plat de gibier. Toute la volière y était. Cela détourna les idées, et pendant qu'on mettait le couvert, un accident survint qui dut rassurer le coupable Jaffray. Ce n'était pas la caisse Schwarz, puissante et farcie de billets de banque, ce n'était même plus la caisse Bancel, contenant la fin du mois d'un riche banquier de province. Mais enfin, outre les titres de la maison de Claire, la caisse renfermait les économies de Jaffray. Gondrequin militaire avait pris les titres, après les avoir soumis à l'examen éclairé de M. Baruch. Il s'éloignait content lorsqu'il aperçut Similor décrivant une courbe à droite pour s'approcher de la caisse. Mademoiselle Vacherie le suivait. D'un autre côté, Échalot, mu par des sentiments bien autrement élevés, se coulait le long de la muraille. Il avait fourré son dindonneau sous son aisselle afin d'avoir les deux mains libres. Faut-il le dire, le pitre, l'albinos, l'hercule, le jongleur et même quelques rapins, manquant de sens moral, convergeaient tous vers un même but qui était la caisse. Était-ce pour en admirer les grandeurs historiques? Les yeux brillaient, les mains frémissaient. « Halte, front !» s'écria Gondrequin, au moment où les doigts crochus de Similor s'allongeaient déjà. « Fixe ! La probité est le privilège de l'honneur !» Monsieur Baruch, toujours plus prompt, se dressa entre la caisse et Similor, à qui il arracha le coup de poing de Jaffray, et disant « On casse la tête du premier qui n'est passage comme une image !»« Et à la soupe !» ordonna Gondrequin militaire. « Demain, vous ferez comme vous voudrez, mais aujourd'hui, par la circonstance momentanée que vous avez l'avantage de travailler avec des gens de cœur tels que moi et rude au poil, garde à vous !» L'immobilité dans les rangs, où on tape ? Similor hésita. Échalot mit son petit par terre et dit avec douceur en se déshabillant « Ah, souhaites-tu qu'on le rentre en pune de soupe à m'aider ? Ah, je jure sur ma patrie que je placerai la somme qu'on va piquer au nom de Saladin pour sa conscription et son mariage. Y es-tu, bonhomme ?» Mais l'immense majorité des oiseaux cria « à table, nous ne sommes pas des voleurs !» Le souper embaumait. La majorité l'emporta. Similor et Mademoiselle Vacherie entrelacèrent leurs bras et s'éloignèrent de la caisse avec un soupir de regret. Échalot a dit bien souvent depuis « C'était l'occasion de se faire des ressources. Sans les deux balayeurs à l'huile, l'enfant aurait eu son sort assuré dans la société moderne. » Ce fut un gai repas.
les oiseaux du bon Jaffray étaient bien nourris. Nous ne décrirons pas les sensations poignantes qui déchirèrent le cœur de leur maître pendant qu'on les dévorait. Son dîner était loin, déjà. Il n'avait plus la crainte de subir le dernier supplice. L'estomac et l'âme sont deux organes bien différents. Jaffray s'avoua à lui-même qu'il eût mangé un blanc de ses amis avec plaisir. On ne lui en offrit point. Iscariote, lui dit Gondrequin militaire, quand on eut nettoyé les trois plats et consommé en sus les reliefs du dîner fin de la veille, monsieur Baruch et moi, nous allons te mettre en liberté. Nous avons besoin d'aller cette nuit dans le grand monde, à l'hôtel de Claire. Un fixe animal où je vas te blesser. Nous te faisons l'honneur de te prendre, n'ayant pas le choix, pour nous conduire chez l'ancienne Marguerite de Bourgogne. En avant, marche. Fin de la deuxième partie.